tout seul, tu sais. Pas d'argent, pas de maison. Pour toi, il y aura moi. Pour moi, il y aura que toi.
Je cultive mon mystère.
Je sais pas, j'ai l'air de vous allumer.
Non, tu sais, c'est un état d'esprit qu'on a perpétuel et c'est pas la haine.
Je serai toute ma vie marqué par ce livre et qui sera comme l'horizon indépassable de mon travail.
Radio Poulpe sur Radio Campus Paris.
Ensuite, ils auront grandi, car ces trois-là semblent éternellement jeunes tant ils avancent plus vite que les années. Pas 20 ans chacun, 2 EP déjà. Ils sont une voix, guitare en main, une basse et une batterie. Plus en synthé parfois. On appelle ça une bande, d'abord des amis dont la passion est commune, le rock, leur premier amour, celui qui les a pris par la main pour les emmener dans un studio de musique. Ils avaient 12 ans, depuis ils ont traversé les années, collège puis lycée avec la même fougue toujours. Alors ils sont montés sur scène, du Silencio au Printemps de Bourges en passant par Taratata et Le Petit Journal. Maintenant, les regards se tournent vers eux et les salles grandissent vite, très vite. Leur identité musicale évolue. Les influences se mêlent et les genres se confondent. Mac DeMarco ou King Krul se glissent entre les Clash et Arctic Monkeys. Ils s'appellent Odilon, Victor et Clément, mais leur groupe c'est Tears, comme les larmes.
Vous l'avez deviné, c'est du rock qu'il s'agit. Pour ses fidèles, le dieu de cette religion nouvelle a un nom pour vous encore barbare, Johnny Hallyday.
Vous êtes très jeune, je crois.
Oui, j'ai 18 ans. Oui.
Vous avez 18 ans.
Quand ils chantent, les corps des spectateurs se tordent dans la salle comme sous le feu de 1000 soleils. Parfois, il arrive même qu'à écouter trop longtemps cette voix incandescente, on s'y brûle vraiment à crier.
Clément, Odilon, Victor, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci de nous avoir invités surtout.
Est-ce que vous pensez que le rock est une musique subversive encore aujourd'hui ?
Alors subversive, le rock, je pense que étant donné que le rock c'est un peu, la musique de base de nos jours, j'aurais du mal à dire que c'est une musique subversive.
Clément,
je suis.
Okay. Enfin, c'est un peu le rock, c'est. En plus, c'est une appellation. Enfin, il y a des rocks, je pense, maintenant, surtout.
C'est quoi ?
Et le rock, peut-être, il a été subversif, mais alors il n'existe plus.
Donc il y a eu un décalage dans le temps ?
Ouais, je pense.
Il n'a plus le même rôle social qu'avant.
Ouais, c'est sûr.
S'il en a encore un, c'est juste de faire kiffer les gens, quoi.
Bien dit.
C'est quoi votre premier choc musical à chacun ?
Dis-donc, c'est David Bowie, je crois.
Ouais, j'allais le dire. Vraiment, j'ai écouté David Bowie pendant 3 ans non-stop.
À quel âge ?
De 12 à 15 ans. Bon, après, c'était un peu chiant. mais sinon, ouais, vraiment, ça m'a foutu une claque parce que, tu vois, au fur et à mesure que je découvrais les albums et tout, c'était jamais la même chose et je kiffais trop, quoi.
Les autres ?
Moi, ma claque, je me suis pris un peu plus tard avec Victor. C'est ses cousins qui nous ont montré un peu des groupes. Enfin, quand j'étais plus petit, j'écoutais pas vraiment de musique à part juste les Beatles, des trucs comme
Henry
ça.
Henry Dess et tout.
Voilà. On avait 10 ans.
Ouais, je crois que notre première claque vraiment c'était quand on a vu un concert des Arctic Monkeys à Apollo. C'était une salle.
Le DVD là.
Ouais, on avait acheté le DVD et on regardait tout le temps chez Clément. Oh, et vraiment c'était genre 2 heures, je crois, de concert.
Ah, on l'a maté mille fois ce
live.
Ouais. Les Strokes et tout, il y avait tout. Enfin, c'était le moment où on a juste découvert en fait simplement la scène genre rock de l'époque.
Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé aussi jeune à monter un groupe à ce moment-là ?
Je pense que c'est ça. Hein. Ouais, c'est justement plus ou moins. De cette prise, cette claque à peu près en même temps. Eux, ils faisaient de la musique déjà ensemble.
Enfin, à la base, c'était moi le guitariste et Victor le batteur, donc on savait pas jouer quoi.
Voilà.
Ça s'appelait les Galaxies.
Parce qu'ils étaient 6 en fait.
On était 6.
On a toujours kiffé un peu les jeux de mots.
Et ouais, non.
Votre premier groupe, vous étiez 6 ?
Ouais, mais enfin, c'est pas un groupe.
C'était pas dedans,
Ouais, on le connaissait même pas Odilon encore.
Vous aviez quel âge ?
On avait.
Franchement, 9 ans, 8 ans.
8 ans.
Ah, oui. Mais on, c'était pas, enfin moi je disais que j'étais guitariste, mais je savais pas jouer de guitare du tout. Okay. J'avais pas de guitare et c'était dans, c'était pour le kiff quoi, de dire que j'étais guitariste.
Ok.
C'était stylé.
Ouais. Victor par c'était contre il faisait un peu votre batterie. On avait enregistré un petit truc.
J'étais plutôt pas mal. Ouais.
Voilà. Bah après moi je savais qu'ils jouaient de la musique tous les deux. Enfin quand je leur en ai parlé déjà, Victor s'était mis à la guitare et Clément à la batterie. Et moi j'ai dit bah du coup je vais faire de la basse et on va faire un groupe ensemble quoi.
Ce qui était hyper original
en
fait
à
l'époque de vouloir faire de la basse quand t'as 12 ans. C'est vraiment pas banal je trouve.
Et au départ quand vous avez lancé justement ce petit groupe, vous considérez ça uniquement comme un loisir ou est-ce qu'il y avait déjà une sorte de défi?
Direct on avait voulu être pro un peu, hein. Franchement.
Bah direct, enfin on a voulu jouer les pros en tout cas. Enfin ouais. C'était le loisir d'être pro quoi. Ça faisait partie du kiff de jouer ensemble, c'était de se dire on fait les choses comme des grands quoi. Même si on les faisait pas vraiment, mais c'était ça l'ambiance quoi. Genre on se motivait et tout, on était assez chaud quoi.
On a tout de suite commencé à faire des petits concerts, trucs pour se mettre un peu la pression direct, j'ai l'impression.
Vous jouiez chez vous ou vous aviez un studio?
J'ai la chance d'avoir une petite cave où on a pu beaucoup de chance. Ça nous a évité, n'empêche tellement d'heures de répète dans des studios payants et tout. Donc on a pu s'installer là et c'est un peu le bordel quoi. Et on a mis une batterie, ampli basse, ampli guitare, on a commencé comme ça.
Et justement, à quel moment vous avez pris conscience que le groupe prenait de l'ampleur, que ça pourrait devenir plus qu'un simple loisir?
Je me suis jamais posé la question, pour mais moi, c'était un peu, on peut se la poser maintenant.
C'était honnêtement pour moi, c'était quand on a fait Taratata.
Ah ouais.
Là, je me suis dit putain, quand même, c'est fou. Genre, on est meilleurs potes depuis toujours. Au final, on faisait de la musique un peu comme ça et d'un coup, genre, t'as Nagui qui t'appelle et qui te dit.
Vous avez quel âge?
On était hyper jeunes.
Bon, après, Nagui nous a pas appelé. Hein. Oui, là, c'est un peu. Là, c'est un peu faux ce que tu dis.
Version romance.
En tout cas, il nous a dit bonne nuit d'une façon pas non, très cool. Non.
Mais sinon, il était marrant, mais.
Non, mais enfin, en gros, juste, gueule, c'était ouf de se dire qu'avec notre morceau, c'était pas des. Enfin, tu vois, c'était un morceau qu'on avait composé quand même. On avait 14 ans, je crois. 13-14 ans. 14 ans.
Ouais, c'est ça.
Et 14 ans, enfin, tu joues genre.
C'était encore quand. Je sais pas si ça existe encore, mais c'était quand il y avait les open mic. Taratata.
Après, c'était un peu à la fin. C'était un peu à la fin de Taratata en plus. Donc là, je viens que ça vient de reprendre, mais c'était un moment où ça marchait moins bien. Mais
là, ça marchait hyper bien à l'époque.
Ah ouais, les open mic, ça marchait bien.
Non, pas les open mic.
Avant ça.
Bah oui, mais enfin, je veux dire, quand même, à l'époque où on passait, ça avait quand même. Ça va encore.
C'était en déclin.
Non, mais c'était encore. tu vois.
Et dès le départ, vous vouliez faire vos propres compositions, c'était un objectif ou vous faisiez juste des reprises comme ça et c'est arrivé après?
On a commencé au début par des reprises. Je pense que t'es obligé, quoi, pour t'entraîner, quoi. Et surtout que t'as envie de refaire comme tes idoles.
Déjà pour jouer des trucs cool, quoi.
On a eu trois phases, en fait. On a fait des reprises, mais ça n'a pas duré très longtemps. Ensuite, on a composé des morceaux qui étaient presque des reprises, puisqu'ils ressemblaient beaucoup trop à genre, ce qu'on écoutait. Et après, on a commencé à faire des morceaux avec plus une identité, quoi.
Et plus tard, comme vous avez commencé si tôt, est-ce qu'à un moment, vous avez eu le sentiment que votre âge était un obstacle dans votre progression, que vous étiez bloqué dans la case, on vous appelait toujours les baby rockers?
Ouais, vraiment.
C'est un peu chiant.
Mais je pense qu'on le voyait plus comme un avantage.
Ouais.
Ouais, on se disait, en fait, tout le temps, on voyait ça comme un obstacle, mais tout le temps, on disait, bah, c'est cool, justement, on est encore jeune, et quand on va grandir, la musique qu'on va faire, elle va être trop stylée, quoi. C'est genre, on se disait ça, tu vois.
Non, mais c'est même maintenant, en fait, au final, là, ça fait que depuis très peu de temps, où genre, moi, j'ai vraiment l'impression que là, on est plus trop jugé pour notre âge. Là, ça arrive encore que quand on rencontre des pros et tout, ils disent putain, quand même, c'est fou, vous avez 19 ans, machin, et t'as l'impression que du coup, ils jugent la musique par rapport quand même vraiment à l'âge qu'on a, tu vois. Mais.
Et quel rapport vos proches, parents ou amis, ils ont eu avec cette place grandissante qu'a pris la musique dans votre vie?
Bah, il y a eu plusieurs réactions différentes. Moi, mon père, il a toujours été à fond dedans parce que lui-même avait un groupe quand il était jeune qui s'appelait Edith Nylon. Et je sais pas, peut-être que.
Vous connaissez?
Ok, bah y a quelqu'un derrière moi qui connaît.
Dans le public. Et donc, oui, lui aussi, il vous a un peu poussé à.
Ouais, voilà, il nous a carrément poussé à jouer et tout. Il m'a acheté ma basse et tout, tu vois. Enfin,
moi, une guitare.
Voilà. Enfin, des guitares. Il trouvait ça cool qu'on joue tous ensemble. Et puis, même jusqu'à maintenant, il nous pousse.
On l'a toujours considéré comme notre manager, quoi.
Ouais, enfin, en tout cas. C'est notre trouveur de plans, quoi. Trouveur de gros plans. Voilà. Ouais. Et après, justement, donc ça, c'est un type de réaction, ouais, et ça va être la même chose partout. Donc je te laisse la parole.
Mais mes parents, moi je fais des maths en études, et donc c'est un peu plus sérieux. Donc
Victor.
Ouais, et bah non, mais ils ont toujours kiffé, tu vois. Mais ils étaient un peu plus réticents.
De loin aussi, ils ont kiffé.
Ça fait un peu peur, c'est normal. Ouais, ça peut faire peur. Moi, mes parents, ils sont hyper cool, mais ça peut faire un peu peur.
Et vos amis?
En fait, on est entouré de tous nos potes, ils font de la zik, tu vois.
Okay.
Et du coup, on kiffait ensemble, quoi.
Quoi?
Ouais.
Ouais, ouais, c'est ça.
Et ça a jamais été une option pour vous d'arrêter vos études pour vous consacrer entièrement à la musique? Pourquoi?
C'est trop risqué.
Une option.
T'arrêterais pas tes études pour la radio, tu vois. C'est hyper chaud de faire ça. Enfin, je pense personnellement.
Oui.
À moins, non, mais par contre, si demain ça marche, si demain il y a un buzz de dingue qui se passe et tu vois, et qu'on contrôle plus le truc, oui, là on se posera vraiment la question, mais là franchement ce serait un peu ridicule.
Mais en vrai, on s'est quand même un peu posé la question. Mais c'est comme tu l'as dit, c'était une option, mais c'était pas l'option numéro 1 du tout, quoi.
Et avec c'était le genre... temps, est-ce que vous vous posez un peu plus sérieusement la question aujourd'hui?
Là, carrément.
Ouais, vu comment ça prend un peu et ça avance, ouais.
Et donc aujourd'hui, vous concevez plus facilement un avenir dans la musique ou dans vos études?
Bah moi, personnellement, la musique, parce que je fais déjà... Enfin, je suis vraiment dans ce truc-là, quoi. Après vous, je sais pas.
On envisage de plus en plus, en tout cas. Surtout que, enfin, pas seulement en tant que groupe, mais on commence à côtoyer d'autres groupes, à voir ce que c'est le milieu de la musique. Et ça, moi, en tout cas, ça me tente bien, et Clément aussi, je pense. Et bon, en vrai, je me pose pas tellement de questions pour l'instant, et genre, j'essaye de concilier les deux, enfin, les études et la musique. Et...
Ouais, moi, quand même, je vois beaucoup plus, enfin, en tout cas, un avenir direct dans la musique que dans les études. Enfin, là, je suis en Cagne. Mais la Cagne, je vois pas trop vers où je pourrais aller. Enfin, je peux très bien tenter des trucs du style Sciences Po, des écoles d'histoire de l'art, des trucs comme ça, parce que j'aimerais bien, mais c'est. Enfin, de manière directe, la musique, c'est plus un métier, quoi, aussi. Donc, ce serait pas mal.
Signé sur le label Néon Napoléon du chanteur et producteur Séverin, ça vous a apporté quoi?
Bah, tout.
Beaucoup de trucs.
Concrètement?
Concrètement, notre premier contrat.
Ouais.
Notre première vraie EP dont on est encore fier après avoir sorti.
Ouais. Non, mais juste le simple fait déjà qu'il y a un mec vraiment pro qui est dans ce milieu depuis 20 ans, tu vois, qui d'un coup, prend nos morceaux et travaille dessus, fait des arrangements, fait des propositions, tu vois. D'un coup, ça fait genre le morceau il a une autre dimension d'un coup.
Il y a une professionnalisation.
Ouais, professionnalisation. Carrément. Mais dans tout aussi, dans la promotion, quoi. Enfin, c'est être signé, ça change quand même pas mal les choses, quoi.
Et puis c'est parfait parce que ça va vraiment avec le fait qu'on là c'est vraiment pour moi c'est une étape intermédiaire, tu vois. On est dans un label qui grossit, quoi, tu vois. Ça fait, ils sont créés en même temps que nous, on est leur première signature. Du coup c'est cool parce que le fait qu'on ait des études et tout ça nous,
ouais,
enfin ça nous accompagnait vraiment dans cet univers là, quoi.
Vous êtes monté sur scène très tôt, la première partie du chanteur britannique Baxter Dury en 2013 par exemple. Comment est-ce que vous avez vécu ces premières expériences de la scène?
Je crois que c'est encore mon concert préféré qu'on ait
fait. Ouais, juste Odilon avait la jambe dans le plâtre,
c'est pour ça que c'était trop drôle.
Il y avait aussi Canal Plus, non, c'est ça?
Ouais.
La nouvelle émission,
ouais,
là.
Édition.
La nouvelle, oh merde, la nouvelle édition.
Ouais. Nouvelle édition qui nous avait suivi alors qu'on faisait ce concert et tout. C'était la première fois vraiment qu'on jouait dans une salle qui était vraiment frais,
vraiment. On sentait vraiment.
Surtout que c'était la Gaîté Lyrique qui est une des meilleures salles.
Elle était vraiment, vraiment belle salle.
Moi je la kiffe en tout cas.
Radio Poule sur Radio Campus Paris. She's here, she's gone. I follow her into my dreams alone. When I kiss her lips. I don't know how she gets me wide awake. And the night is getting long. Love will be the answer to the questions in my head. And I keep on asking it.
only stars will ever shine more than she will ever do. I'm stuck around an epic mystic flicker of faith and I can get away from it. Love will be the answer to the questions in my head, and I keep on asking it, and I can't stand much longer. It's like you wanna stay with me, I'm gonna hold you tight, and I keep on asking it. Tell me something. I hope it's not the way I dropped you that just makes you cry. But will you ever tell me something? I hope it's not the way I dropped you that just makes you cry.
Love Will Be The Answer, extrait du dernier EP des Tears, Magical Lane. Lune nous a rejoint en studio pour sa chronique Conversation avec les morts. Bonsoir Lune.
Bonsoir Jules, bonsoir les Tears. Bonsoir à vous chers auditeurs. Oui, vous avez bien entendu, une conversation avec les morts. C'est le principe de ma chronique. Jules interviewe les jeunes, les fringants, les nouveaux. Moi, j'accompagne cette émission des trépassés que je vais chercher au fond de leur tombe, que je vais réveiller le temps d'une soirée. Je ne suis pas nécrophile, mais chacun son truc. Moi, c'est les vieux. Alors les Tears, j'ai écouté votre son pop, doux et dansant, mais surtout rock. Rock, et ça tombe très bien qu'on vous reçoive aujourd'hui, puisque ça fait longtemps que je souhaite interviewer un grand, grand nom du rock.
Mais alors, qu'est-ce que t'es allé voir chez les morts ?
Cette fois, Jules, j'ai dû partir un peu plus loin que le cimetière de Montmartre. Cette fois, j'ai pris un billet d'avion pour Seattle. Et oui, hop, petit aller-retour en plein milieu de la semaine, tout va bien, la vie est belle. Et je me suis rendue au cimetière de Reuters Greenwood, là où est enterré Jimi Hendrix.
Jimi Hendrix. Wow.
Et oui, direct, je vais chercher le dieu du rock, le dieu de la guitare électrique, celui qui vous électrise et vous fait mouiller la culotte. Je déconne pas, moi, on me dit The Tears vient, et ben je vais vous réveiller la plus grande légende du rock, même pas peur. J'arrive au milieu de la nuit, histoire de créer l'ambiance, j'installe des bougies autour de sa tombe, je me suis levée dans un look tout en cuir et j'invoque The Sexy Motherfucker. Il est là, il est devant moi, il sort des flammes de l'enfer accompagné de sa guitare et il me dit « Hey girl, what's up ?» Ouh là là, ça rigole plus là.
Mais alors, quelle question tu lui as posée à Jimi Hendrix ?
Je n'ai même pas eu le temps d'en poser une ou de me présenter, je suis restée figée, complètement tétanisée. Il sort une clope et me demande si la guerre du Vietnam est finie et comment vont ses frères, ses brothers. Alors bon, petit rire nerveux, je lui dis « Hey man, la bonne nouvelle c'est que la guerre du Vietnam est finie et en plus vous avez eu un président noir. Oui, je déconne pas, un président noir pendant 8 ans, can you believe it ? Mais malheureusement, je dois vous annoncer qu'il a été remplacé par un président milliardaire, escroc, raciste, sexiste et en plus avec une horrible moumoute blonde dans sur la tête. Bref, je lui annonce qu'on sait pas trop à quel point son pays est dans la merde, mais c'est sûr, il est dans la merde. » Et là, il me dit « Lorsque le pouvoir de l'amour vaincra l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix. » Je lui réponds « Oui, c'est vrai, mais on fait quoi ?» Il reste un moment silencieux, gratte sa guitare, tire une taffe et me demande enfin pourquoi je l'ai réveillé. « Ah oui, c'est vrai. Alors je remets mon cerveau en marche. C'est pour un groupe de musiciens, des jeunes français. Je suis venue parler musique avec vous, voilà. Et d'ailleurs, j'ai une question. Vous pensez que la musique peut vraiment changer le monde ?» Il me répond. La musique doit être spirituelle par-dessus tout. C'est comme un rappel de paix plus que la politique. La politique est vraiment un péché d'ego. C'est un art des mots, donc rien. Waouh, scotché qu'il réponde à mes questions. Du coup, hop, j'enchaîne et je lui demande ce qu'il y a de plus important pour lui dans sa musique. Qu'est-ce que doivent garder à l'esprit des jeunes musiciens qui un jour peut-être seront aussi des rockstars ? Il me répond. La plupart des groupes jouent fort parce que tout le monde joue fort. Mais moi, j'essaie de jouer pour aller à l'intérieur de l'âme des gens. Les jeunes musiciens ont la chance de se faire beaucoup d'argent parfois et se perdre, oublient la musique elle-même, leur talent et la moitié d'eux. Il s'étire, jette sa clope et part vers les flammes avec sa guitare.
Bien, merci beaucoup Lune pour ta chronique. Vous merci. Écoutez toujours Radio Poulpe et nous sommes toujours en compagnie des Tears. Tant dans son identité graphique que musicale, votre dernier EP, Magical Lane, aussi entre romantisme naïf et sexualité décomplexée. Est-ce que cet EP, c'est avant tout l'histoire d'un adolescent qui découvre les différentes dimensions de la relation amoureuse ?
Text writer, please.
Victor.
Pas
un peu, en vrai.
Bah c'est à ce moment-là que t'as découvert, non ?
Ouais, c'est vrai.
Ouais, non, c'est un peu ça, en vrai.
Ouais, bah, peut-être involontairement, alors.
Vous avez différentes interprétations ?
Non, mais moi, celle que tu dis, je la trouve juste, personnellement.
C'est vrai ? C'est vrai ?
Ouais.
Ok, bah cool, alors.
Non, mais en vrai, c'est ça aussi. Enfin, moi, je me rappelle que... Quand, tu parles aussi d'identité graphique et tout, enfin, donc de la pochette.
Ouais.
Bah ouais, c'est ça. Donc moi, à chaque fois, en tout cas, qu'on m'a posé la question, je répondais plus ou moins ça, quoi.
Toi Victor, c'est toi qui compose.
En plus du fait qu'elle est drôle.
T'as pas forcément cette interprétation.
Je pense qu'on on essaye. Enfin, je sais pas si on essaye de vraiment dans notre première musique de délivrer un message spécifique et on essaye juste on a envie juste de faire de la musique, tu vois, dans les notes. Enfin,
ouais.
Je sais pas si on a vraiment un message spécifique à délivrer pour l'instant. Et là, on essaye vraiment de kiffer, quoi.
En vrai, c'était un peu du remplissage. un petit peu. Les textes, je parle.
Et c'est pour ça aussi qu'on chante pas en français. Tu vois, c'est que
mais franchement, ce truc. C'est là aussi où on veut progresser. Genre, les derniers textes et tout, on les a fait ensemble cette fois. Parce que, en fait, ouais, clairement, Victor, il n'est pas hyper fan... d'écrire et tout. Mais je pense, enfin tu vois, ça vient aussi avec le fait qu'on grandit et qu'on est un peu pudique, tu vois. Mais ça va venir.
Il y a une vraie rupture entre votre premier EP It's Not a Game paru en 2013 et le second paru cette année, l'un très rock, l'autre plus éclectique. C'était un besoin pour vous de confondre les genres, de brouiller votre identité musicale?
Il y a un écart énorme entre les deux. Enfin,
je pense pas que ce soit vraiment volontaire, c'était juste
les années.
Ouais, c'est juste les années et je pense que c'est avec ça, avec tous les groupes. Enfin, en général, surtout en ce moment, sur l'évolution des groupes, c'est surtout un premier album assez rock et garage, je trouve, c'était un peu ça. Et très inspiré Strokes, Arctic Monkeys, tout ça. Et là, maintenant, on a écouté plus de sons différents avec l'arrivée de synthé, de sons différents et ça nous a plus inspiré, quoi.
C'est vraiment ce qui nous a fait aller un peu dans cette direction.
Ouais, aussi.
C'est lui qui nous a proposé de rendre le truc un peu plus pop. Enfin, déjà, on en avait envie, c'est pour ça, les morceaux à la base étaient beaucoup moins rock avant, mais. Quand même, les sons de synthé, tout ça, ils nous ont un peu orienté.
On a remarqué aussi, quand même, que les morceaux qu'on jouait le mieux, c'était les morceaux un peu funk, tu vois. Où il y a une guitare un peu rythmique, une basse
groovy
avec la batterie, tu vois, genre hyper tight. Et c'est vraiment le genre de morceaux qu'en vrai, on kiffe le plus jouer.
Ouais.
Et tout ça, ça fait qu'il y avait un mélange, comme tu dis, avec. Ça résulte plus, tu vois, d'un mélange, enfin c'est pas du tout issu de notre volonté, quoi.
Et ça a été difficile au départ de dépasser vos premiers modèles, de sortir de vos références pour construire une identité musicale un peu singulière?
Ouais, vachement
grave.
Ouais, mais très difficile. Mais je pense qu'on a eu de la chance parce qu'au début, j'écoutais beaucoup de le même groupe tout le temps. Enfin, je trouvais un groupe, j'écoutais à fond ce groupe. Et en ce moment, je trouve qu'il y a de plus en plus de bons groupes de partout, tu vois, qui viennent de partout. Et du coup, on a plein d'inspirations qui viennent de partout et du coup il n'y a pas vraiment d'effort à faire, tu fais un mix, quoi.
Mais par contre, encore aujourd'hui, on se dit des fois, ah ça ressemble un peu ça ressemble, tu vois.
Mais on a vraiment une période pendant, je sais pas, une bonne année, quoi, où tout ce qu'on faisait, on n'était pas content de ce qu'on faisait, on disait non, c'est pas possible.
Ouais.
On sentait vraiment que Enfin, qu'il y avait.
On a une phase de transition dans notre
transition,
musique.
Quoi.
On n'arrivait plus à composer vraiment. Genre, c'est là où on est devenu un peu plus pop, je trouve.
Et donc, on vous a donné des conseils pour sortir de ces influences, pour réussir à s'en libérer?
Non, franchement, on l'a fait tout seul.
C'est pour ça que ça a mis un an aussi.
Juste en travaillant, en écoutant, ouais, en écoutant.
Ouais. En faisant d'autres choses. En même temps, on était aussi. C'était en première, genre?
Non, avant.
En seconde?
Ouais, troisième seconde.
Ouais, je sais pas. On était encore au lycée, on était encore un peu, peu heureux par rapport à la musique. On pensait pas qu'on allait en faire un truc très gros, mais quand même, on se disait que oui. Donc, tu vois, c'était toutes ces choses-là faisaient qu'on hésitait un peu, qu'on se sentait pas très bien. On faisait quand même 2 répètes par semaine, toutes les semaines. Et on se retrouvait et on faisait des morceaux et ça donnait pas grand-chose, quoi. Mais en vrai, ça nous a servi beaucoup.
Et est-ce qu'entre vous, vous avez eu des désaccords dans la direction à prendre pour le groupe?
Des petits tous les jours, après des gros.
Musicalement ou...
Musicalement ou.
Des ouais, petits, bah, musicalement, musicalement. Musicalement, ouais, toujours, mais c'est ça qui est aussi bien et c'est ça qui fait qu'on a des idées, quoi.
C'est normal, je trouve.
Ouais.
Mmh, après, des énormes, genre. Ou vraiment au point de. Moi, je dis non, je veux pas sortir la chanson, et d'ici, ouais, si, non, absolument jamais. Parce que on écoute quand même en vrai les mêmes choses. Après, ouais, quand tu composes un morceau, souvent, moi, je dis par exemple, je préfère ça, tu vois.
Ouais, voilà. Me contredis, des trucs comme ça. C'est mieux. Parce qu'après, on parle et on se dit...
Ah, il y a un vrai dialogue. Hein.
Ouais, voilà.
Il y a un vrai dialogue.
Et dans les processus de création de vos morceaux, ils sont toujours similaires ou ça avance?
Ça change un peu, là, en ce moment. Avant, c'était vraiment tout le temps Victor qui trouvait un petit truc à guitare acoustique et une deux voix et qui nous l'amenait. Après, tous ensemble, on... Et là, en fait, c'est un peu pareil. C'est juste que maintenant, c'est un peu chauffé. On a acheté plus de matos et on travaille directement un peu la production. On essaie de on a des synthés, tu vois, on a une carte son, des trucs comme ça. On essaie de trouver des sons directement et on... C'est encore Victor qui ramène la base, enfin les premiers accords,
en vrai,
ça,
en vrai,
les mélodies.
En vrai, il y a eu 3 phases, je dirais. Une première où c'était Victor et moi,
ouais.
Pas mal, qui a duré au tout début quand on était vraiment jeunes. Quoi. Et Clément, lui, qui... Enfin, franchement, on peut le dire.
Non, mais ouais.
Il
faisait de la batterie, quoi.
Ouais, voilà, il faisait de la batterie, il tapait sur des tambours, quoi.
Ouais, c'est kiffant aussi.
Ouais, non, c'était cool. Après, deuxième phase où c'était vraiment juste Victor. Et c'est là où on a. Enfin, c'est de ça qui sont sortis, par exemple, le dernier EP qu'on a sorti, Magical Lane. Et plus récemment, moi, comme je suis quand même un peu pris par ma prépa, et que les deux, ils ont un peu plus de temps, mais qui sont quand même occupés, bah, ils se retrouvent quand même. Enfin, moi, je peux pas être là tout le temps. Ils se retrouvent plus tous les deux. Et Clément, lui, c'est plus. Maintenant, il fait une école de son et tout. Il a acheté. On a commencé à enregistrer nos maquettes sur le logiciel pour enregistrer, quoi. Et les deux, maintenant, ils se chauffent autant. Et moi, après, je viens. Et du coup, ça se fait
plus. Ils disent qu'ils
vraiment, maintenant, on est vraiment tous les trois sur le même pied d'égalité avec quand même Victor qui ramène les idées, quoi.
Ouais.
Et ces nouveaux instruments électroniques dont tu parlais, c'est aussi grâce à la structure du label que vous avez pu un peu diversifier votre production?
C'est-à-dire la structure du label
qui vous apporte une professionnalisation?
Non, bah déjà, de un, il y a eu ce côté où, ouais, pour la première fois, on a vu des synthés dans des studios d'enregistrement, on a eu envie de jouer. Et après, c'est aussi vraiment, on vu tout ce qu'on écoutait, et dans chaque truc qu'on écoutait, il y avait des sons de synthé, genre absolument dingue et tout, et on a juste eu envie de faire pareil.
Ouais, ce qui est cool en fait avec le synthé, c'est que justement, tu synthétises des sons, quoi. Du coup, tu peux faire plein de sons.
Ouais.
Alors que la basse.
Oui, ça t'ouvre énormément de possibilités.
Ouais, c'est ça. Ouais. Ça
bah, un son, ça peut faire un.
Vous sentir un peu enfermé par vos instruments.
Bah, on faisait basse, batterie, guitare depuis. Pendant 5 ans. Genre, c'est à la fin, tu deviens fou, quoi. Dans une... T'es là, enfin, d'un coup, t'as l'impression de découvrir, genre, un monde incroyable.
Ok.
Non, c'est vrai qu'être que 3, ça a limité un peu, mais. Enfin, c'est pas. Enfin, c'est cool quand même, quoi, mais ça limite un peu.
Au bout d'un moment, t'en plus, quoi. Tu vois, les Blackies, je sais pas comment ils font pour déjà péter un câble.
Bah, la preuve, je pense qu'ils ont pété un câble, un peu.
Et tu parlais, pour les paroles de vos morceaux au début, un peu de remplissage. Il n'y a jamais eu un d'entre vous qui a eu vraiment envie d'écrire un texte très abouti? C'est pas ce qui vous intéresse le plus?
Non.
Franchement, non, mais ça devrait, mais, parce que je pense que c'est quand même important.
Là, on est en train de changer. Hein.
Ouais.
Non, en vrai, vraiment. Là, on commence à comprendre que... Déjà, on se posait la question de peut-être chanter en français aussi de temps en temps. Mm-hmm. Mais ça, on l'a jamais fait parce que déjà, on n'écoutait pas ça. Et en plus, je trouve que chanter en français, c'est très dur parce que vraiment, il faut que le texte, il défonce si tu veux que ton morceau, il soit bien, quoi. En anglais, c'était un peu une protection. Et puis là, même le prochain EP qui est en préparation, qu'on est en train d'enregistrer, je trouve que les textes sont beaucoup mieux. franchement.
Ouais, ouais, bah là, parce qu'on s'est dit. Enfin, on faisait, ouais, on s'est rendu compte de ça quand même, mais on a voulu faire le truc en mode plus recherché.
On a bossé l'accent.
Du coup, je fais, vas-y, je viens. Du coup, j'ai fait une partie. C'était quoi? Combien de. J'ai fait deux chansons. J'ai fait avec Victor les textes, okay. Et franchement, ça donne un truc plutôt pas mal.
Et il y a des thèmes que vous, parfois, que vous avez vous dites, j'ai envie de l'aborder à travers une chanson? Ça peut être un médium privilégié.
Le truc chiant, c'est que Victor, il parlait que de filles tout le temps. Et là, j'ai l'impression que ça change un peu et qu'on essaie plus de raconter des histoires drôles.
Bon, après, quand même, 99% des chansons, ça parle de filles, quoi. Quand c'est chanté par des hommes.
Donc, c'est ce qu'on veut.
Ou par des filles qui aiment les filles.
Ouais. Mais en ce moment, on est en train d'exploiter le fait que Dylan, ils soient en prépa.
Genre.
Non, c'est vrai. Et du coup, on peut aborder des thèmes de philosophie et on parle.
Oui,
dans
voilà, parce que comme je connais plein de choses.
Justement, est-ce que vous êtes sensible au rôle politique de la musique ou pas du tout, finalement?
Ça aussi, pas trop. Ça peut paraître con de dire ça, en vrai, c'est juste que. Moi, j'écoute pas un morceau pour son message politique. Okay. Forcément, après, s'il y en a un, tu vois, et que le morceau me plaît, tant mieux. Mais j'écoute pas un groupe et je me dis, putain, c'est cool.
Ouais. Non, c'est clair. Mais je pense que c'est plus une conséquence de la musique que son but, quoi.
Oui, c'est pas le socle. Mais voilà. Donc, par exemple, dans le futur, vous vous verrez pas du tout pour défendre une cause, faire un morceau ou pour critiquer quelque chose.
Si c'est vraiment la merde.
Bah, mec, là, c'est pas loin,
mais.
Bah, pas encore.
Non mais ça aussi c'est un truc où il faut être super fort pour faire ça. Enfin je ne dénigre pas, tu vois, mais genre c'est un autre truc encore, tu vois. Nous ce qu'on sait faire, c'est faire des morceaux un peu funk, un peu pop, qui dansent un peu avec des mélodies cool, et genre pour le moment c'est ça.
Oui. Après, si Marine Le Pen est élue présidente, on chantera en anglais. On continuera.
Et quel est votre rapport à la scène aujourd'hui?
Alors je pense que nous on est vraiment un groupe pour qui la scène ça a beaucoup d'importance.
Ouais.
Depuis le début. Quand tu vois aujourd'hui le nombre de groupes qui jouent avec des ordis, des claviers et tout, et genre nous il y a vraiment une batterie, guitare, on fait basse, avec maintenant des pads et des claviers, on fait des chœurs et tout. Enfin c'est.
Ouais. On kiffe ça quoi. On tient vraiment à la dimension organique du groupe quoi. Quand même si on s'est tourné un peu vers les synthés et tout. On reste un groupe avec un noyau dur qui est de basse, batterie, guitare, parce que il y a aussi des gens qui ont, il y a juste un guitariste qui s'accompagne de personnes qui sont, enfin ils s'en foutent un peu, c'est des musiciens de scène quoi. Et nous la scène c'est vraiment important parce que on joue en tant qu'un groupe, tu vois, vraiment d'amis à la base, et du coup c'est
ce que vous préférez être sur scène.
Pas forcément.
Pendant un moment non, mais là en ce moment les derniers concerts qu'on a fait, moi je les ai vraiment kiffés. Hein. Ouais. Alors il y a eu un autre clairement, truc, je sais pas pourquoi ça a changé. En fait on joue mieux, tu vois, et genre
on est beaucoup moins stressé et c'est presque que du kiff quoi.
Avant c'était une épreuve à chaque fois, on stressait et tout, on se disait putain est-ce qu'il y aura du monde, est-ce que on va pas faire trop de pain, des trucs comme ça. Et là franchement je sais pas, on est détente.
Ouais, maintenant c'est
cool,
le but c'est de jouer au mieux les morceaux, mais enfin ça c'est un peu un truc, enfin c'est la base quoi, et on a dépassé ça. Et maintenant, le but, c'est de vivre le mieux le concert pour que les gens le voient. Quoi.
Est-ce que dans le futur, il y a une salle que vous aimeriez faire en particulier? Une salle que vous aimez?
À Paris, il y a tellement de salles bien.
Ouais.
Franchement, c'est cool. Tu vois, à Paris, tu as vraiment des salles bien. Je sais pas, moi, c'est quoi le dernier concert on a vu? On a trop kiffé dans une salle.
Je sais pas, on va pas trop dans des grosses salles.
Ouais, à chaque fois qu'on va dans des concerts, c'est pas
trop notre délire, Zénith, Olympia.
Bah, quand même, si. Bah, après, j'aimerais bien faire un festival, mais une vraie scène avec
à l'extérieur.
10 000 personnes, quoi.
Ce serait cool de faire un petit rock en scène. un petit rock en scène bientôt.
Ça, ouais,
mais
cool.
Sinon, ouais, non, en vrai, il y a tellement de salles bien. Moi, la Cigale, par exemple, je sais pas pourquoi, c'est une salle qui m'a toujours trop fait. Que j'ai toujours trop kiffé. Je trouve que c'est quand tu fais la Cigale, ça y est, t'es pro quoi. T'es dans le truc.
Ok. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous avez une vraie expérience de la scène, du fait justement que vous avez commencé très jeune et que c'est assez original à votre âge?
Une vraie expérience? Je sais pas, mais en tout cas une expérience, ouais.
Non, mais en fait, à chaque fois, on est encore en train de stresser et tout. Quand on est pas serein, tu vois. On n'est pas encore, genre, on n'est pas en stade.
Dernier concert à l'épicerie moderne, vous voyez, il y a un petit. petite review vidéo, mais c'est normal juste avant de rentrer.
Ouais, voilà, parce que franchement, je pense que tous les groupes, juste avant de rentrer, ils ont un petit coup de stress, quoi.
Et même si tu l'as plus, c'est
ouais, voilà. Bah, nous, par exemple, iPhone qui venait de faire une tournée d'un an, tu vois, avec qui on a joué, les mecs, ils faisaient encore plus flippé que nous avant de rentrer sur scène. Ils se tenaient comme ça, ils se chauffaient, ils se foutaient des fessées et tout. C'était les mecs, ils étaient genre bouillants, quoi. Et après, quand tu vois comment ils se donnent sur scène, c'est n'importe quoi. Hein. C'est genre, ils sautent, ils crient, genre, genre c'est un truc de dingue, tu vois. Et ils font ça tous les soirs. Vous, c'est primordial, je pense.
C'est important pour vous de donner le maximum sur scène, de transmettre.
C'est ce qu'on a compris, et si on commence à comprendre en ce moment, quand tu fais un concert et que tu vois les gens qui kiffent, tu vois, c'est le meilleur truc. Genre.
C'est ce qu'on nous a reproché quand même pas mal, et c'est sur quoi on bosse le plus, en tout cas, sur scène, quoi.
Mais ça, c'est une spécificité aussi du rock par rapport à des musiques plus électroniques où il y a moins de transmission, de dialogue.
Ouais. C'est ça, un concert d'un mec avec un ordi, moi j'ai jamais kiffé, tu vois. Genre un... Qui ça ?
Jacques, par exemple.
Non, mais ça, c'est différent. Non, mais après, faut pas faire... Nous, on a, par exemple, Lewis qui joue avec nous. Aussi, lui, ses concerts, il défonce, tu vois. Et il y a un ordi, des synthés, mais après, c'est parce que le mec, c'est quand même un musicien, c'est un batteur, tu vois, à la base. Il fait des trucs de ouf sur les pads et tout. Enfin, ça, c'est cool. Moi, parce que là où j'ai un peu de mal, c'est quand t'as 1000 bandes et que c'est genre de la techno comme ça et que vraiment, les gars, ils font rien et ils sont derrière un ordi. Et ça je trouve ça... en tout cas, ça me fait rien, tu vois.
C'est juste pour faire la fête, quoi.
Ouais.
C'est pas pour aller à un concert ou... Enfin, tu vois, c'est pour s'amuser, quoi.
C'est quoi vos coups de cœur musicaux du moment ?
Alors, c'est quoi nos coups de cœur ?
On écoute plein de trucs.
Moi, mon groupe préféré en ce moment, c'est un groupe qui s'appelle My High Club. Et c'est vraiment de la balle. Ah et bon, donc, je vous conseille à tous.
C'est un groupe californien et pas canadien, comme tout le monde pourrait le croire, parce qu'ils sont dans la bande de Mac DeMarco, tous ces mecs-là. Et en fait, eux, ils sont en Californie et je trouve que ça apporte un truc un peu différent, justement. Moi aussi, j'aime beaucoup.
Ouais, je sais pas si j'ai entendu. Moi, j'ai pas écouté, je crois. Mais je pense que j'aimerais.
Non, moi,
vu qu'ils en parlent beaucoup.
Si, t'as écouté, on t'a fait écouter.
Bah, sinon, dans la bande, justement, des mêmes, j'aime bien. Enfin, j'adore Home Shake. Donc, lui aussi, c'était l'ancien guitariste de Mac DeMarco. Et vraiment, ce qu'il fait, c'est la musique hyper posée. Hyper cool. Non, vraiment, j'aime trop les. Tu vois, la musique où d'un coup, il y a un accord, genre, qui
un
fait.
Atmosphère.
Genre, ou tu sais, genre t'as la basse qui arrive, ça fait genre boum, ça me cale trop, quoi.
Voilà. To get me, I never found better. Try it and come closer, closer. Cause you'll never walk on a magical lane. I never found better. Try it and come closer, closer. Cause you'll never walk on a magical lane. We'll be right back.
vous écoutiez le remix de, Lewis Hoffman du morceau phare du dernier EP de Tears, Magical Lane. Chaque mois, on donne carte blanche à un invité en lien avec la discipline de l'invité. Bruno Barbazan est photographe de mode et guitariste du groupe Lost in Madrid. Bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Tu peux nous présenter ce son ?
Alors là, pour le coup, c'était pas le son de la scène Madrid, mais qui est un peu plus grunge en fait que ça. Mais là, c'était le son de Nick Cave on the Bad Seat. Et en fait, j'ai choisi ce morceau-là aujourd'hui parce que malheureusement, ce matin, en me levant, j'ai appris le décès de Leonard Cohen, qui est pour moi un des plus grands songwriters. Et donc du coup, comme Nick Cave a été longtemps... Enfin, The Tears parlait super bien de la musique. D'ailleurs, avant, je tiens à le préciser, j'aime bien la façon dont ils voient les choses. C'est-à-dire qu'il est toujours intervenu dans leurs propos la notion de plaisir dans la musique, dans le fait d'en jouer, et jamais de profit. Parce que c'est vrai que je trouve que, bon, voilà, à notre époque... Il y a beaucoup de gens qui pensent beaucoup plus à déjà fournir un produit qui va leur apporter du profit plutôt que du plaisir. Donc déjà, ça fait déjà énormément plaisir à entendre de voir des jeunes gens qui n'ont même pas 20 ans qui jouent déjà pour se faire plaisir. En plus, ça sonne bien. Donc voilà.
Merci.
Et en rapport avec le songwriting, toujours. Parce que je ne pense pas qu'il puisse exister de morceaux de musique corrects sans songwriting. Quoi. Enfin, je veux dire, Les Sex Pistols, à Justin Bieber, même si c'est un très 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 mauvais exemple, le dernier. Et quelque part, il y a quand même un songwriting. Sinon,
ouais. Bon,
ouais. Voilà, il se passe pas grand-chose. Maintenant, quant à Nick Cave, je trouve qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a su... je l'ai choisi parce que déjà, c'est quelqu'un qui a su évoluer au cours du temps de manière assez magistrale, c'est-à-dire... En commençant par un groupe post-punk hyper hardcore, vraiment assez dur à écouter, on va dire, qui s'appelait Birthday Party, et qui était inspiré de tous les mouvements de Cold Wave, de tout le punk, qui a généré beaucoup de choses. Et ensuite, pour basculer vers une sorte de musique où on pourrait penser à une sorte d'Elvis Presley dégénéré, hyper gothique et... super dark, et pour arriver à la fin à une musique pratiquement électronique qui est une sorte de mélange de rock bizarre et de encore une fois de songwriting accompli. Donc vraiment, je trouve que c'est un artiste vraiment qui dépasse le statut classique du musicien. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que lorsque les Tears ont pris la parole tout à l'heure et lorsque tu leur as demandé quelles étaient leurs influences et les premières choses qu'ils ont écoutées, ça m'a amusé, en même temps ça m'a un peu fait flipper, parce que quelque part, ils ont écouté les mêmes choses que moi quand j'ai commencé la musique, alors qu'on a à peu près plus de 30 ans d'écart. Quand vous citiez David Bowie, c'est fou. Enfin, moi je l'écoute à mort en plus en ce moment, pas parce qu'il est décédé l'année dernière, mais parce que juste je redécouvre 2-3 trucs et je m'aperçois à quel point... comme au même titre que Nick Cave, c'est pour ça que je l'ai choisi aujourd'hui, pour illustrer un petit bande sonore, à quel point ces gens ont été des visionnaires et hyper novateurs, le tout en étant en plus, ce dont vous avez parlé au début, en plus d'être subversif. Parce que c'est vrai, comme un de vous le disait, le rock a perdu énormément de son côté subversif ces derniers temps, parce que peut-être que quelque part, comme tous les genres, c'est peut-être un genre qui s'essouffle. C'est possible. C'est probable même. Par contre, beaucoup de gens regardent en ce moment vers le passé pour voir justement quels étaient les éléments les plus subversifs de ce type de musique, ce qui l'a rendu d'ailleurs intéressant. Ce qui n'était pas vraiment subversif, finalement... Bon, ça reste un avis, bien évidemment, mais au bout du compte, ils ont presque beaucoup plus disparu que ceux qui étaient réellement subversifs. David Bowie, pour le coup, était réellement subversif. Donc, et ce, jusqu'au bout. Parce qu'avoir écrit un album sur sa propre mort, c'est quand même un peu costaud. Mais voilà, c'est vachement intéressant que des jeunes gens maintenant créatifs, voilà, qui ont envie de faire de la scène, qui ont les mêmes interrogations que sans doute ces groupes à l'époque, je veux dire, soient inspirés par les mêmes personnes dont ma génération était inspirée, quoi. Je veux dire, il n'y aurait jamais eu Iggy sans Bowie, Joy Division non plus, et je veux dire les Clash et Pistol, et je veux dire voilà, et sans doute peut-être Nirvana et consorts, quoi. Je veux dire Bowie, il reste une influence majeure pour en fait finalement presque trois générations de musiciens, ce qui est assez inouï, quoi. Ce qui est assez inouï. Ben voilà.
Merci beaucoup. Que ce soit chez les Tears ou Bruno Barbazan, l'esthétique occupe une place centrale dans vos travails, à vous deux. Bruno, est-ce que tu peux nous parler du rôle qu'occupe selon toi l'image dans le rock et dans la musique en général, en tant que photographe?
Ben, moi déjà, j'ai pas trop. Enfin, l'idée c'est que je pense qu'il y a pas de rock sans esthétisme du rock, en fait. Il y a presque... D'ailleurs, le mot esthétique du rock, je trouve, il est même presque pas assez fort. En fait, il y a un dandisme du rock. C'est-à-dire que les gens qui vont aimer cette musique, même, c'est bizarre parce que le mot rock, maintenant, c'est un peu ringue quelque part, parce qu'on consomme tellement d'autres choses, tellement, les vecteurs sont tellement différents. Ça fait presque un petit peu partie du passé, alors que je trouve que c'est un véritable mode de vie, en fait, finalement. C'est-à-dire que tu vas choisir tes baskets, tes chaussures, ton jean, ton t-shirt, ton manteau en fonction de ce que t'écoutes, quoi. Si t'écoutes, si t'es réellement investi là-dedans. Maintenant, si tu vois, moi je mettrais jamais une doudoune rose. Voilà, c'est un mauvais exemple probablement, mais j'en porte pas, quoi. Ça collerait pas, tu vois. Ça collerait pas.
Les Tears, vos clips comme votre style témoignent d'un réel souci de l'image. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce rapport, ce que vous avez à l'image que vous dégagez en tant que groupe?
Non, c'est parce que en vrai, le dernier clip qu'on a sorti, il est pas mal, mais juste. On s'est posé beaucoup de questions. On s'est justement pas posé beaucoup de questions, on l'a fait naturellement. Tu vois, on a écouté les personnes qui nous ont.
Mais c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur, qui a une place aussi importante dans votre travail. Grave.
Ouais, vraiment. Enfin, ça a quand même changé. Enfin, le rapport à l'image des groupes, c'est maintenant c'est beaucoup plus dans l'instantané avec tout ce qui est Facebook, Instagram. Faut nourrir les fans, quoi. C'est dur à dire, mais c'est vrai que vrai groupe qui fonctionne, il
poste toute la journée des trucs, quoi.
Ou il le fait de manière très intelligente, il fait attendre les fans, il poste un truc, une photo incroyable tous les 3 mois, que les fans ils deviennent fous sur la photo.
C'est
nécessaire à la musique, quoi. Les deux sont, on peut pas
l'univers c'est ouais. Presque ce que tu crées, en fait, genre l'univers que tu crées et tout, il est presque autant important que tes morceaux. Mais je pense que ça l'a toujours été, mais en ce moment je trouve que c'est incroyable. T'as des groupes, c'est vraiment genre, tu sens que tout le monde a envie d'être pote avec eux,
voilà,
genre ils créent un truc un peu chaud et tout, et les gars les trouvent trop stylés, mettent des photos d'eux sur Instagram.
Mais donc pour vous maintenant c'est l'image, elle est directement liée à la communication.
Je pense le vrai but de l'image et combiné avec la musique, c'est de réussir à faire que les gens qui écoutent la musique et qui aiment, en voyant et en voyant les clips, en voyant les photos, tout ça, ils ont envie de se dire, genre, c'est des mecs cool, j'ai envie de passer du temps avec eux, parce que j'ai envie d'être comme ça, quoi. C'est pour ça que ça va ensemble, quoi.
T'as envie d'appartenir à un truc.
Ouais, c'est ça, de dire, je suis... Enfin, c'est pas non plus se dire, je veux être... Enfin, je suis comme eux, je suis contre les autres, quoi. Mais c'est se reconnaître, c'est se trouver soi-même dans les autres, quoi. Enfin, ouais, je sais pas.
Donc, Bruno, tu penses qu'on a perdu une certaine spontanéité dans l'image que dégagent les...
Spontanéité, non, je suis assez d'accord avec eux. Au contraire, on en a gagné, puisque, ouais, comme tu dis, il faut, ouais, nourrir via les réseaux, oui, sociaux maintenant, ouais. Facebook, Instagram, Twitter, tout ce que tu veux. Et, enfin, Twitter, pas vraiment nécessairement pour l'image, mais je veux dire, les gens ont envie de voir, ils ont une soif d'image, ils ont envie de voir des images constantes. C'est vrai qu'avant, les images étaient beaucoup plus ralenties. Ouais. Maintenant, le fait d'appartenir, comme vous dites, à un clan via l'image que véhicule le groupe, c'est tout à fait vrai. C'est vrai. Je veux dire, moi, enfin, Il y a des pochettes de disques de vinyle que j'ai regardé pendant tout le temps où j'écoutais le vinyle pour m'apercevoir qu'en fait j'avais envie d'être habillé exactement comme les gens de la pochette, quoi. Tu vois ce que je veux dire? La première pochette des Stranglers, pour moi, j'ai dit à Jean-Jacques Burnel, voilà, un blouson en cuir, hein, tu vois, un jean slim et des baskets, voilà. Quand tu étais comme ça, tu pouvais pas être appartenir à un autre clan que celui de pour lequel. Voilà, t'avais envie de te couper les cheveux et c'est un peu pareil. Bon, maintenant c'est difficile parce que tout est beaucoup plus mélangé, il y a beaucoup plus de tendances, il y a beaucoup plus de courants, il y a presque trop d'infos finalement.
Ouais. Mais est-ce que justement l'apparition de ces nouveaux outils de communication, ils ont pas le fait que les images soient extrêmement contrôlées maintenant, c'est pas problématique?
Non, c'est pas spécialement problématique. Il faut jamais regarder en arrière. Je crois qu'il faut vivre avec son temps. Ça serait bizarre de se dire avant c'était mieux, avant il y avait ci, avant il y avait ça. Non, il y a plein de gens créatifs, il y a plein de nouveaux groupes, il y a plein de gens qui ont une autre façon de voir les choses. Il y a plein de gens qui se présentent sur scène en ayant une esthétique particulière, qui font des clips qui sont hallucinants, qu'on n'aurait jamais vu. Non, je pense que mais c'est vrai qu'il faut prendre soin de l'esthétisme toujours. Enfin. Moi, évidemment, c'est mon métier, donc fatalement, je vais prêcher ça, mais c'est vrai que c'est tellement inhérent au contenu que ça paraît presque impossible de se dire « Tiens, je vais voir tel ou tel artiste sur scène, il fait une musique incroyable, c'est juste sublime. » Et je veux dire, le mec, il est en short, quoi. C'est bizarre. Ça colle pas, tu vois, il y a un truc... J'ai rien contre le sport, mais...
C'est quand même clair que ceux qui marchent... Enfin, il y a une véritable stratégie.
Ouais, il y a une direction artistique, vraiment.
Ouais, genre. Mais c'est quand même... C'est vrai que moi, je suis d'accord aussi que ça peut être aussi un peu problématique, puisque c'est pensé pour toucher des personnes, c'est pensé pour avoir des fans, dans un but quand même, qui est celui du succès, et donc, pour ceux que ça intéresse le plus, c'est-à-dire... Enfin, les grosses maisons de disques, tout ça qui marche le plus, quoi. Enfin, genre, c'est l'argent, au final, qui compte.
Moi,
donc,
je pense que...
c'est quand même créer quelque chose qui va pouvoir engranger de... Enfin, c'est contrôler un peu le désir des gens aussi. Mmh. C'est de leur donner ce qu'ils veulent. Et ça peut aussi passer, du coup, par le fait que ta propre envie de partager des choses n'est pas vraiment représentée par ton image. Ça peut être un risque aussi.
Que ce soit pour les Tears ou pour toi, Bruno Barbazan, c'est quoi l'importance pour vous du dialogue intergénérationnel dans la musique?
Je pense que déjà l'importance...
Est-ce qu'il existe en fait? Non, bien sûr il existe, mais... Ouais. Non, vas-y, je t'en prie.
Il passe d'abord... Enfin, on écoute aussi la même musique, donc le dialogue il se fait aussi par le fait qu'on écoute la même chose avant de parler sur... Enfin, je sais pas, de courant ou de trucs qui finalement sont le moins important. Enfin, je pense que quand même, ce qui est le plus important, c'est d'écouter la musique, de l'apprécier et d'en tirer quelque chose de personnel, quoi.
Toi, ton père, par exemple, il a eu beaucoup d'influence.
Ouais,
sur toi,
voilà, c'est ça. Et c'est grâce à lui, clairement, que aujourd'hui, je fais de la musique, quoi. Enfin, c'est sûr et certain, je pense, que si mon père faisait pas de la musique, j'en aurais pas fait. Parce que, à l'endroit où j'en suis maintenant, quoi. Donc ouais, c'est vraiment important. Se passe aussi parce qu'il me faisait écouter de la musique. C'est le dialogue, tu vois, c'est pas par les mots qu'il me parlait, quoi, c'est parce qu'il me faisait écouter, quoi.
Bruno, toi avec ton groupe, est-ce que t'as l'impression que la musique c'est un médium privilégié pour s'adresser à d'autres générations?
Moi, j'ai toujours trouvé que de toute façon la musique était un processus qui menait pratiquement à quelque chose. C'est tellement... La musique est un truc très particulier, en fait. Oui, bien sûr, ça aide à parler à d'autres générations, mais je pense pas que ce soit, en fait, le problème générationnel. Je trouve que, justement, dans la musique, il n'existe pas réellement, en fait. Parce qu'en fait, je sais pas, vous devez le réaliser, en fait, quand vous êtes sur scène, est-ce que vous avez la notion que le temps n'existe presque plus?
Ouais, oui, c'est bien.
Il s'écoule pas de la même manière. Et ça, je pense que lorsqu'on l'a vécu, en fait, on l'oublie plus jamais. C'est un truc qui est très particulier. C'est un processus qui est très spécifique à la musique. En plus, la musique, c'est voilà, on peut se passionner pour les mathématiques, on peut se passionner pour la musique, on peut se passionner par la photo. La musique est le sol qui est toujours en mouvement. C'est-à-dire que vous allez jouer par exemple un soir. ça aura l'effet que ça a. Vous allez jouer le lendemain, ça sera différent. C'est autre chose. C'est jamais pareil, c'est toujours en mouvement. Donc quelque part, ça crée ce processus. Et ce processus, il transcende beaucoup de choses, d'autant plus qu'en plus, bon, on ne va pas rentrer dans la philosophie de la musique, hein, mais d'autant plus qu'il est physique. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a autour du cou ou devant soi avec des tomes, je veux dire, voilà, on appelle ça des instruments. C'est en fait la pensée qui se traduit directement à travers l'instrument. Et ça, quelque part, c'est pas du tout générationnel. Je veux dire, c'est juste le fait d'adorer presque par-dessus tout jouer de la musique, quoi. C'est, voilà, on découvre ça, alors par le biais de ses parents, ou sans, ou par hasard, je sais pas comment on découvre ça, mais tout d'un coup, il y a des notes qui vous parlent, et puis, voilà, ces notes-là, elles font que vous allez écouter de la musique pendant toute votre vie, et vous spécialiser dans un genre, et aimer ce genre encore plus, qui va amener encore dans un sous-genre, et puis dans un autre, et puis dans un autre, qui va vous aider à faire des morceaux, comme vous le disiez tout à l'heure, de plus en plus précis, en changeant des trucs, parce que tout d'un coup, vous êtes plus satisfait du processus de création que vous aviez avant, et tout d'un coup, vous voulez le faire évoluer vers quelque chose. Et ce qui va tout d'un coup rendre votre musique et votre créativité spéciale. Et en ça, je vois pas de génération, quoi.
Merci les Tears d'avoir été nos invités.
Merci beaucoup.
Merci aussi à Bruno Barbazan d'être venu.
Merci Bruno.
Merci à Lille Bourgogne pour sa chronique. Merci à Arthur à la réalisation. Pour se quitter, on écoute un dernier extrait de l'EP des Tears, Looking for a Dime. Radio Poulpe, une émission produite et présentée par Jules Bruxelles.